Laudetur Jesus Christus.
Le profil du prochain pape se dessine à Rome alors que deux congrégations générales des cardinaux se sont tenues hier. Les réflexions font émerger la figure d'un pape pasteur. Nous y revenons juste après ces titres. Témoignage dans ce journal d'un patriarche d'Orient qui sera présent au conclave, le cardinal Sacco, patriarche de Bagdad des Chaldéens. L'unité de l'Église et la paix au Moyen-Orient restent des priorités pour lui, nous l'entendrons. Dans ce journal également, reportage à suivre dans un lieu important qui vit à 1000 à l'heure ces derniers jours au Vatican. L'imprimerie, c'est là que tous les documents officiels comme les bulletins de vote des cardinaux sont imprimés. Et puis dans notre dossier gros plan ce matin sur l'histoire des conclaves, comment ont-ils évolué au fil des siècles entre codification et influence politique? Nous en parlons avec notre invité, le père David Gilbert. Il est professeur extraordinaire d'histoire de l'Église à l'Institut catholique de Paris.
Radio Vatican, le journal, Olivier Bonnel.
Bonjour, nous sommes le mardi 6 mai et demain, 133 cardinaux électeurs entreront donc en conclave dans la chapelle Sixtine afin d'élire le 267e pape de l'histoire. Les membres du Sacré Collège qui se réunissent ce matin à 9h pour ce qui devrait être la 12e et dernière congrégation générale. Hier, les cardinaux ont tenu deux sessions dans la salle du Synode au Vatican. Bonjour Delphine Allaire.
Bonjour Olivier.
Ces réunions d'hier ont permis, Delphine, d'esquisser la figure du prochain souverain pontife, un pape pasteur.
Absolument, cela parle. Paraît évident, mais nulle facilité pour atteindre un consensus au sein d'un collège cardinaliste représentant un aussi grand nombre d'origines et de peuples. Depuis mardi 22 avril, lendemain du rappel à Dieu de François et date de la première congrégation générale en présence alors d'une soixantaine de cardinaux, tous ont rejoint Rome au fil de ces deux semaines pour commencer à élire demain le 266e successeur de Pierre. Deux semaines de réunion pour faire connaissance, se rencontrer, dialoguer. À celle qui s'est rajoutée ce lundi après-midi en présence de 170 cardinaux, l'espérance à point d'un pape inscrit dans une perspective de dialogue et de construction de relations avec les différents mondes religieux et culturels d'une figure pastorale. Une vingtaine d'interventions, dont celle de cardinaux africains et asiatiques, continent de croissance du catholicisme, ont abordé l'ethnicisme au sein de l'Église et de la société, la migration, les guerres, les défis des sectes dans certaines régions géographiques, mais aussi l'ecclésiologie de la communion et le synode sur la synodalité, achevé en octobre, mais dont la mise en œuvre va s'étaler jusqu'à la grande assemblée ecclésiale convoquée à Rome en 2028 et qui concerne le cœur et le corps de l'Église universelle.
Merci beaucoup Delphine Allaire. Des prières pour le choix d'un pasteur selon le cœur de Dieu. C'est également le vœu de nombreux fidèles sur le continent africain, en particulier en Guinée où un pèlerinage s'est déroulé le week-end dernier à Bofa, là où les premiers missionnaires catholiques sont arrivés dans le pays. L'occasion d'élever une prière spéciale pour le conclave. Plus d'informations à retrouver sur notre site vaticannews.com. Parmi les cardinaux électeurs qui entreront demain dans la chapelle Sixtine figure un représentant des églises orientales, le cardinal irakien Louis Raphaël Sacco, le patriarche de Bagdad des Chaldéens. Il nous explique comment il a vécu ses congrégations générales de l'intérieur et surtout quelles sont ses aspirations. On l'écoute.
Les deux jours étaient très riches. Il y a une atmosphère paisible, pas de tension. Puis, nous sommes tous membres de cette Église et c'est une responsabilité très lourde sur chacun de nous de choisir celui qui est le meilleur. Le pape est pour toute l'Église et je crois qu'il doit garder l'unité de l'Église et la foi, l'intégrité de la foi catholique. Et faire même l'unité avec les autres églises et penser au dialogue avec les musulmans, parce que nous vivons parmi les musulmans. Si donc il n'y a pas de dialogue, l'Orient sera vidé. Chrétiens.
Le cardinal Sacco, patriarche chaldéen de Bagdad, interrogé par Jean-Charles Puzzolu. Sachez qu'un autre patriarche oriental fait partie du collège des électeurs. Il s'agit du cardinal Baselius Clémis, le primat de l'église Syro-Malankar, en Inde. Hier après-midi s'est tenue la cérémonie de prestation de serment des personnes qui assureront le bon fonctionnement du conclave et qui serviront les cardinaux électeurs, cuisiniers, gardiens, commandants de la garde suisse, médecins ou prêtres confesseurs. Un serment tenu devant le cardinal Kamerlingue dans la chapelle Pauline du palais apostolique. C'est de cette chapelle que les cardinaux se rendront en procession dans la chapelle Sixtine demain après-midi. La plupart des personnes concernées, une centaine, sont des employés de la maison Sainte-Marthe. Cet édifice situé à une cinquantaine seulement de mètres de la basilique Saint-Pierre où seront logés les cardinaux électeurs dès ce soir. Petit tour du propriétaire avec Xavier Sartre.
C'est par tirage au sort samedi dernier effectué par le Kamerlingue que les cardinaux électeurs se sont vus attribuer une des 129 chambres ou suites de cette résidence hôtelière à l'allure austère inaugurée en 1996 par Jean-Paul II. Le pape polonais voulait une structure qui puisse accueillir dignement les cardinaux lors des futurs conclaves. Elle complète un premier bâtiment construit bien avant, ancien hospice pour pèlerins, où seront logés 4 électeurs faute de place dans la maison Sainte-Marthe. Les 133 cardinaux participant au conclave y dormiront et ils prendront leur repas. Pour seule distraction ou presque, ils pourront converser entre eux, tout contact avec l'extérieur étant interdit. Les volets de leur chambre seront fermés. Pas question d'utiliser non plus son téléphone portable qu'ils devront laisser à la résidence. De toute façon, le signal téléphonique sera coupé dans la cité de l'État du Vatican dès mercredi 17h et jusqu'à l'annonce de l'élection du successeur de Pierre. Lors de leur déplacement vers la chapelle Sixtine, là non plus, pas de possibilité pour les cardinaux de croiser quelqu'un autre que leur père. Idem sur le chemin du retour à la maison Sainte-Marthe, devenue, de fait, de par la volonté de François, un nouveau palais apostolique puisque le défunt pape avait décidé d'y vivre et d'en faire son lieu de travail principal. Rien ne dit toutefois que le prochain souverain pontife choisisse d'y résider. S'il décidait de revenir dans le palais historique, Sainte-Marthe retrouverait entièrement alors sa vocation première, celle d'hôtel pour les visiteurs du pape.
Xavier Sartre, et la préparation d'un conclave, on l'a dit, nécessite de nombreuses petites mains. Tous s'activent pour permettre la tenue de cet événement unique dans les meilleures conditions possibles. Nous vous emmenons ce matin dans l'imprimerie du Vatican, la Tipografia Vaticana, qui travaille jour et nuit afin de réaliser les nombreux documents officiels pour permettre notamment la tenue du vote. C'est un reportage au plus près des rotatives, signé Jean-Benoît Harel.
Depuis quelques jours, le bruit des machines de la Tipografia Vaticana résonne sans arrêt dans les allées du Vatican, à quelques pas du palais apostolique. Cette institution se charge de l'impression des textes officiels du Vatican, mais aussi les livrets de messe ou les éditions de l'Osservatore Romano. Dans les grands halls de travail, la quarantaine de salariés se presse entre les machines pour assurer les nombreuses commandes pour les messes et le conclave qui arrive, comme l'explique Guido Benfante, coordinateur de la Tipografia Vaticana.
In questo momento c'è molto lavoro, tutto il lavoro che stiamo facendo.
Nous avons beaucoup de travail pour permettre la tenue du conclave, les documents utiles pour que les cardinaux se connaissent et qu'ils puissent mener à bien leurs tâches pendant cette période. On a travaillé jour et nuit pendant plusieurs jours pour garantir notre service auprès du Saint-Siège et les nécessités du moment, et nous avons organisé le personnel de telle sorte à faire un double roulement selon les besoins.
Pour le conclave qui commence mercredi, la Tipografia a édité un annuaire avec toutes les biographies des cardinaux, les listes de dépouillement du conclave, mais s'attelle également à l'impression des petits bulletins de vote qui seront dans les mains des cardinaux et sur lesquels chacun écrira le nom de celui qu'il choisit comme futur souverain pontife.
Pour nous, c'est très important, c'est un honneur de pouvoir assurer ce service auquel nous tenons beaucoup pour le fonctionnement du Saint-Siège, mais aussi comme moyen de diffusion de la parole du Saint-Père, et enfin pour renforcer le sens d'appartenance que chaque personne qui travaille au Vatican ressent.
La fumée blanche et l'élection du nouveau souverain pontife n'arrêtera pas les presses de l'imprimerie. Les salariés devront en effet appliquer les nouvelles armoiries du pape sur tous les nouveaux écrits officiels et continuer les impressions des multiples documents au service de la voix du futur pape.
Un reportage signé Jean-Benoît Harel, et le pré-conclave et toutes nos informations sont bien évidemment à retrouver sur notre site vaticannews.va. Plus de 10 jours après la disparition du pape François, les hommages continuent. C'est le cas notamment hier au Parlement européen où la présidente du Parlement, Roberta Metsola, en ouvrant la session plénière, a rendu un hommage au souverain pontife défunt. Elle qui était présente aux funérailles place Saint-Pierre le 26 avril dernier. Le pape François sera rappelé pour son leadership inspirateur, pour son autorité morale et sa gentillesse, a notamment dit Roberta Metsola. Je vous rappelle que dès mercredi soir, dès demain, Radio Vatican vous proposera des émissions spéciales sur le conclave jusqu'à ce qu'une fumée s'élève au-dessus de la basilique Saint-Pierre. En cas de fumée blanche, nous découvrirons ensemble, bien sûr, l'identité du 266e successeur de Pierre. Tout cela est bien sûr à suivre sur vos antennes habituelles, mais aussi sur Vatican News et sur nos pages YouTube ou Facebook. Ce mercredi s'ouvrira donc le conclave. Qui élira le 266e successeur de Pierre? Qui prendra la tête de l'Église catholique après François? Les 133 cardinaux électeurs se décideront dans les jours qui suivent. Ils seront enfermés dès demain après-midi dans cette mythique chapelle Sixtine, là où se déroule pour la 26e fois cette élection si particulière. Auparavant, les cardinaux pouvaient se réunir en différents endroits. Ce fut notamment le cas à Lyon pour l'élection de Jean XXII en 1316, mais également à Viterme, au nord de Rome, qui accueillit la papauté pendant de nombreuses années, au XIIIe siècle. C'est d'ailleurs dans cette ville, située dans le Latium, que le terme de conclave fut utilisé pour la première fois. La légende raconte que, excédé par la longueur des débats, la population de Viterme enferma les cardinaux, les privant même de vivres pour qu'ils accélèrent l'élection. Grégoire X fut alors élu et c'est lui qui commença à codifier les règles du conclave. C'est ce que nous raconte ce matin notre invité, le père David Gilbert. Il est professeur extraordinaire d'histoire de l'Église à l'Institut catholique de Paris.
Avant même que Grégoire X, après cette élection extrêmement difficile, extrêmement longue, n'institue par cette bulle de 1274 le conclave comme une procédure censée devenir stable dans l'histoire de l'Église, il existait déjà une élection réservée aux cardinaux, mise en place progressivement au XIe et XIIe siècle, avec des procédures qui n'étaient pas aussi codifiées qu'aujourd'hui, mais qui sont attestées tout de même, des procédures d'isolement, pas forcément de réclusion stricte, avec évidemment plus ou moins d'infractions à la règle du secret ou au principe de liberté d'élection.
Les règles concernant le conclave évoluent-elles beaucoup dans les siècles suivants ?
L'institution du conclave évolue assez peu au cours des siècles, mais à partir de Célestin V, de manière stable, l'élection pontificale se déroule sous forme de conclave. Donc peu d'évolution au Moyen-Âge tardif, peu d'évolution à l'époque moderne, même s'il faut mentionner tout de même une grave crise. C'est ce qu'on appelle dans l'historiographie le grand schisme, une période d'environ 40 ans, de 1378 à 1417, au cours de laquelle la chrétienté d'Occident est divisée entre deux, voire trois obédiences pontificales rivales. Et là, l'institution du conclave se trouve aussi au cœur du problème. Donc peu d'évolution majeure jusqu'au XXe siècle finalement, jusqu'à l'internationalisation du collège cardinalis. Au Moyen-Âge et à l'époque moderne, le collège des cardinaux, c'est une vingtaine, une trentaine de personnes, tout au plus. C'est qu'à partir du XXe siècle que leur nombre augmente jusqu'à être fixé par Paul VI au nombre de 120 cardinaux électeurs âgés de moins de 80 ans. C'est la réforme majeure à cette élection.
Du XVIe siècle à l'élection de Jean-Paul II en 1978, tous les papes ont été italiens. Pourquoi une telle mainmise sur le trône de Saint-Pierre ?
Si l'on part du XVIe siècle dans l'Europe de l'époque moderne, jusqu'à la fin du XVIIIe siècle au moins, les cardinaux non italiens sont des promoteurs naturels des intérêts de leur pays auprès du Saint-Siège. Et si les papes nomment des cardinaux espagnols et français principalement, plus rarement des cardinaux portugais, allemands, polonais ou hongrois, cela s'inscrit dans le cadre de leurs relations diplomatiques avec les souverains européens. L'élection d'un pape non italien à cette époque-là apparaît comme une éventualité dangereuse en fait pour la liberté et l'indépendance du Saint-Siège. Élire un Italien issu de l'une des principautés ou républiques qui se partagent alors la péninsule italienne, c'est une garantie relative de liberté du Saint-Siège par rapport aux influences des couronnes espagnoles ou françaises.
Ça n'a pas empêché les puissances catholiques d'exercer une certaine influence sur les conclaves. Comment se manifestait-elle ?
Ce beau principe de liberté des électeurs, de liberté des cardinaux, n'empêche pas les pressions plus ou moins fortes, la plupart du temps, à la fin du Moyen-Âge, à l'époque moderne et encore au XIXe et XXe siècle. Les gouvernements font connaître leurs préférences ou leurs refus. Cela ne va guère au-delà. Les interventions des puissances politiques sont bien attesté jusqu'au XXe siècle. Et on sait bien que Pie X, qui est élu en 1903, est le dernier pape élu à la suite d'un veto prononcé contre le cardinal Rampolla au nom de l'empereur d'Autriche, François Joseph, par l'un de ses sujets présents au conclave, le cardinal archevêque de Cracovie. Effectivement, François Joseph s'opposait à l'élection du cardinal Rampolla qui passait pour anti-autrichien, mais une fois élu, Pie X s'empresse d'abolir cette pratique qu'on appelle l'exclusive. L'on reconnaissait la possibilité aux souverains catholiques de prononcer lancer comme cela cette exclusive contre tel ou tel cardinal, mais ce n'était qu'une reconnaissance de type coutumier, pas véritablement un droit, ce n'était inscrit nulle part.
Voilà l'histoire des conclaves à la une de notre dossier ce matin. Interrogé par Xavier Sartre, le père David Gilbert, professeur d'histoire de l'Église à l'Institut catholique de Paris, était ce matin l'invité de Radio Vatican. Et ainsi s'achève ce journal. Merci pour votre fidélité. Prochain rendez-vous de l'information, ce sera à 13h en direct de Rome. Je vous souhaite une excellente journée.